feu, une émission de Gâteau Bell.
Mesdames et messieurs, bonjour, nous avons le grand plaisir de nous retrouver pour un nouveau numéro de Plein Feu. Chaque semaine, eh bien, on échange longuement avec une personnalité du monde culturel, économique, politique, social, religieux ou tout simplement une personne qui nous inspire. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Véronique Perriot. Bonjour Véronique.
Bonjour, merci de m'accueillir.
Bienvenue, avec joie. Pas simple de vous définir, hein. Vous êtes une amoureuse du gratuit, je pense, une écrivaine qui rêve d'un autre monde, mais qui le construit aussi, à la fois en y pensant, mais en le construisant très concrètement aussi. Sur le terrain, vous habitez dans les Alpes, vous êtes française. Un de vos idéaux, c'est rendre féconde la rencontre entre la pratique et la théorie pour accoucher d'un nouveau monde, c'est ça?
C'est tout à fait ça, c'est très bien résumé.
On va en discuter évidemment aujourd'hui. Vous êtes notamment l'autrice de Gratuité, un petit ouvrage paru aux éditions Dents de Lion, et plus récemment, un petit livre qui traite de l'amitié. Voilà quelques-uns des sujets qu'on va baliser aujourd'hui dans cette émission Plein Feu. Mais tout d'abord, c'est un petit peu une des marques de fabrique de cette émission, eh bien, on va prendre le temps de s'intéresser vraiment à vous, à votre histoire, à votre parcours. Peut-être que vous pourriez un petit peu vous présenter à nos auditeurs. Qui êtes-vous, Véronique?
Oh, je cherche toujours.
Bien que ça.
C'est Ivan Illich qui est un grand inspirateur, enfin c'est très probablement mon principal maître à penser, qui disait que sa vie était un chemin d'amitié. Et je pense que c'est un peu ça aussi, ma vie est un chemin de rencontres, de découvertes, d'exploration. Alors maintenant, en avançant en âge, je commence un peu plus à voir se dessiner l'itinéraire, mais c'est vrai que parfois j'ai eu l'impression de prendre des voies de traverse, des voies de garage, des impasses, des fausses routes, etc. Donc j'ai 54 ans, j'ai une formation en sciences politiques, en sociologie et en sciences politiques. J'ai la particularité de ne pas avoir été scolarisée toute mon adolescence suite à la lecture d'Ivan Illich par mes parents. Donc je dois aussi à Ivan Illich d'avoir clairement, pratiquement, concrètement orienté ma vie et d'avoir découvert très jeune finalement que quelque chose qu'on croit absolument incontournable comme l'école peut être contourné et qu'il y a d'autres options possibles. Donc c'est vrai que je mesure aujourd'hui à quel point ça a orienté ma réflexion, puisque je me suis rendu compte que rien n'était un acquis absolument définitif et que tout pouvait être non pas rayé de la carte, mais réinventé. Mmh. Et depuis, c'est un peu ce que je m'efforce de faire. Je dirais même que c'est une seconde nature, c'est-à-dire que j'ai été élevée hors du cadre. Donc pour moi, le cadre est toujours négociable, est toujours amendable, bonifiable. C'est un terme que j'aime beaucoup qui vient de la gouvernance partagée, c'est-à-dire qu'on ne rejette pas quelque chose, mais on essaye de le bonifier, de le rendre meilleur. Mmh. Voilà. Donc j'ai fait des études de sciences politiques, j'ai même fait une préparation à l'ENA, je me destinais un peu à la haute administration. Et puis en fait, je me suis lassée d'être dans une sphère de personnes qui allaient gérer des dossiers. J'ai eu envie d'aller faire quelque chose de plus concret. Et donc j'ai fait le concours finalement de l'ANPE à l'époque, l'Agence Nationale pour l'Emploi, qui aujourd'hui s'appelle France Travail, c'est le service public de l'emploi. Et j'ai été confrontée assez jeune, j'avais 22 ans, à ce que c'était que d'accueillir des administrés, de les contrôler, de les harceler, de les contraindre à venir rendre des comptes dans une situation économique qui était catastrophique, où les gens ne pouvaient pas trouver de travail. Et donc, dès cette époque, je me suis intéressée beaucoup au revenu universel. Et à la possibilité de renverser le paradigme, à savoir non pas travailler pour gagner son pain, mais gagner son pain d'abord pour pouvoir œuvrer, et œuvrer de la façon la plus constructive et celle qui correspondrait le plus à son élan personnel, plutôt que de devoir faire un travail qui... Moi, j'ai vu des populations entières détruites par des années et des années d'usines et incapables de pouvoir concevoir même la possibilité de faire autre chose, détruites par le travail. Et dès cette époque, donc ça remonte à une trentaine d'années, je me suis dit qu'il y avait moyen de faire autrement. Mmh. Ensuite, je me suis mariée, j'ai vécu à Hong Kong puis en Californie. Hong Kong, c'était encore la dernière colonie au monde, colonie britannique. Donc j'ai découvert la pensée coloniale, la pratique coloniale, le mépris de la population dans laquelle les gens arrivent. Ça m'a beaucoup choquée. De voir ce que la pensée blanche pouvait faire à des personnes qui sont traitées comme des animaux, littéralement. Ça a été un choc. Et puis ensuite, je suis allée en Californie, dans la Silicon Valley, à l'époque du boom de l'industrie de la technologie de pointe. Et là, j'ai découvert la drogue dure qui était l'argent. Ça a été aussi très fondateur de me rendre compte que nous, on y allait avec mon mari, un peu comme la plupart des gens, pour gagner vite de l'argent, pour pouvoir ensuite se retirer du marché du travail et vivre la belle vie. Et en fait, je me suis rendu compte que personne ne faisait ça. C'est-à-dire qu'au bout d'un an, il leur fallait 2 fois plus d'argent, puis 3 fois plus, puis 10 fois plus. J'ai compris que c'était un puits sans fond, que ça rendait les gens très malheureux. Et qu'ils avaient beau avoir 8 Porsche dans leur garage et faire des vacances à l'autre bout du monde, plus ils accumulaient, plus ils étaient malheureux. Donc il y avait un problème en fait dans la forme de salut que nous présentait la société de consommation, c'est qu'il n'y a pas de salut dans le fait d'accumuler plus de biens, et que le vrai salut, et c'est vraiment ce qui me manquait là-bas, c'est dans la qualité des liens. Connaissez cette phrase, plus de biens, moins de liens, plus de liens, moins de biens. Il y a vraiment pour moi un vase communicant à cet endroit-là. Les biens viennent compenser l'absence de liens.
Est-ce qu'on peut dire que depuis lors, ce sont vraiment les liens et donc moins les biens qui sont devenus le fil rouge de votre vie ?
Ça ne s'est pas fait immédiatement. C'est marrant parce que en fait, c'est ce que j'observe. En fait. On a des expériences de vie, puis ça met un petit moment à se décanter, à s'intégrer. C'est comme quand j'ai arrêté de manger de la viande il y a une quinzaine d'années. Au départ, ça a été une prise de conscience brutale, donc j'ai arrêté d'en acheter. Et en fait, ça s'est intégré dans mon corps comme une évidence. Ça a mis quelques années avant que ça ne se questionne même plus. Et il me semble que beaucoup de bifurcations dans la vie, surtout par rapport à un modèle dominant, il y a d'abord un élément volontaire, souvent intellectuel. Et puis le temps que ça s'intègre dans le corps, dans la matière, dans l'affect, c'est plus long. Et il y a des phases de régression, il y a des phases d'hésitation, ça ne fait pas encore complètement partie de soi.
Aujourd'hui, Véronique Perriot, votre quotidien, à quoi ressemble-t-il ? Vous habitez dans les Alpes, vous êtes une montagnarde ?
J'habite dans les Alpes un peu quand je suis revenue des États-Unis, c'est là où mon mari a trouvé du travail et c'est là où on s'est séparés. Donc, avec la garde alternée, c'est là où je suis restée. C'est pas complètement un choix, mais c'est ma réalité en tout cas. Et aujourd'hui, l'essentiel de mon temps, c'est écrire et m'occuper de mes filles. J'ai 4 filles, dont les 3 aînées sont grandes maintenant. Ça aussi, je pense que ça a été un élément très important dans ma vie de regarder les choses non pas d'un point de vue mental, mais d'un point de vue de mère de famille. Et de me poser la question de qu'est-ce que c'est que le monde qu'on propose aujourd'hui à nos enfants. Je me suis beaucoup intéressée aux questions d'effondrement dans les années 2016, 2017, 2018. Et quand j'ai pris conscience en fait de la crise systémique dans laquelle on était, des risques de rupture des systèmes d'approvisionnement, de ce qui alimente notre machine à produire et à consommer, et de ce que ça pouvait entraîner en termes écologiques, politiques, humains, je me suis sentie immensément responsable vis-à-vis des vies que j'avais mises au monde. Et il m'a semblé à ce moment-là que la seule chose que je pouvais décemment faire, c'était de trouver des passages pour qu'il y ait un avenir désirable pour ces enfants aujourd'hui. Oui. Et que je me devais de leur proposer ça. Donc en fait, c'est à ça que j'œuvre depuis.
C'est ce que vous faites, ouvrir ces passages.
Ouvrir ces passages aussi bien intellectuellement pour les penser, parce que je pense qu'on manque on pense à l'intérieur d'un cadre qui nous mène au mur. Donc on a besoin de réapprendre à penser au-delà de ce cadre. Donc c'est pour ça que je m'intéresse notamment à la gratuité, à l'amitié, au vernaculaire, etc. Et puis c'est aussi le pratiquer, l'expérimenter, parce qu'il ne suffit pas de le penser, il s'agit bien de le mettre en pratique, et puis la pratique réforme aussi la pensée. Par exemple, sur la gratuité, j'organise des cercles de gratuité depuis 8 ans, on va dire. Et j'ai écrit un livre au bout de 3 ans, suite à mes observations. Je me dis, mais c'est une baguette magique. Mmh. On a sous les yeux quelque chose d'extrêmement simple, qui ne coûte rien, qui permet de maximiser des usages sans usage de ressources supplémentaires, qui crée du lien social. J'ai envie de le partager.
Et donc, c'est vraiment l'idée que la réflexion nourrit et se nourrit de la pratique. Et c'est justement, vous regrettez un petit peu que dans notre société, il y a encore un peu trop ce clivage entre ceux qui pensent et puis ceux qui agissent.
Complètement. Oui, mais je pense que c'est un des plafonds de verre sur lesquels on bute aujourd'hui, c'est-à-dire la distinction entre qui date des origines de l'institution de l'Église. Pas du christianisme primitif, mais vraiment, je pense que c'est le moment où il y a eu l'institutionnalisation avec la conversion de Constantin au IVe siècle, qu'on a eu l'impérialisme romain s'est joint au message chrétien et ça a donné quelque chose qui n'est ni le message christique ni tout à fait la société romaine, mais l'Église catholique romaine qui a conduit à cette séparation entre les clercs et les laïcs, en allant même assez loin avec l'usage d'une langue que ne comprenaient même pas les croyants.
Mmh, le latin.
Voilà, pendant jusqu'à quand même très très récemment. Donc, et une partie qui est habilitée à parler publiquement aux autres et les autres qui sont là pour écouter ceux qui parlent.
Mmh. Et ce modèle de l'Église a marqué la société dans laquelle on vit encore aujourd'hui.
Oui, hein, c'est là où pour moi la pensée d'Illich, et pas que d'Ivan Illich, hein, est tout à fait marquante, c'est de montrer à quel point l'État est une translation séculière de l'organisation de l'Église. Mmh. Et on est toujours dans la même situation, c'est-à-dire qu'il y en a qui parlent au nom des autres, qui décident au nom des autres. Moi, j'ai été donc élue municipale et j'ai vu en 3 mois de temps mes collègues élus qui n'avaient jamais été élus auparavant, hein, qui étaient essentiellement des personnes investies dans l'associatif, qui se sentaient légitimes pour parler au nom des autres, décider au nom des autres et avoir ce mépris, en fait, en 3 mois de temps, du petit peuple, ils en parlaient comme ça, auquel ils appartenaient 3 mois avant. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous structure dans notre façon de faire société, c'est qu'il y en a qui seraient légitimes à penser, à décider, et il y en a dont la tâche serait de transformer leur pensée en matière. Et il n'y a pas cette communication entre les deux dimensions. Mmh. Et pour reprendre l'exemple des cercles de gratuité, donc au bout de 3 ans, j'ai écrit un livre sur le sujet. Et puis, j'ai continué à pratiquer la gratuité, à la questionner, à observer ce que d'autres m'en disaient. Et 3 ans plus tard, j'ai complété ce livre. Parce que la pratique m'avait amené d'autres éléments qui modifiaient ma pensée. Et là, on est à 6 ans plus tard, 3 ans après la dernière version. Et je suis de nouveau en train de modifier ce livre, qui va doubler de volume pour le coup. Parce que ça amène énormément de questions beaucoup plus structurantes sur la notion de commun, de marché, d'échange, de comment ça peut complètement révolutionner même une dimension carrément théologique de la gratuité.
Est-ce que vous diriez que vous êtes une révolutionnaire, une anarchiste? Vous vous situez comment?
Révolutionnaire, non, parce que la révolution au sens cosmologique du terme, c'est revenir à la même place. Une révolution solaire, on revient au point de départ et c'est souvent ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on casse tout, mais finalement, il y a une autre catégorie sociale qui prend le pouvoir, mais on a remplacé la noblesse par la bourgeoisie, mais finalement, on n'a pas changé grand-chose au rapport de domination. Donc ça ne m'intéresse pas tellement les révolutions, au contraire, je trouve que ça génère beaucoup de morts, beaucoup de destruction et de division sociale. Une anarchiste, je dirais a priori plutôt oui, mais il faut bien qu'on s'entende sur le terme anarchisme. Je ne suis pas très friande des ismes de façon générale. Je dirais que je suis plutôt une... je pense qu'on a les moyens de générer nos propres règles et nos propres lois au plus près de l'endroit où on se situe. Je suis très méfiante et de plus en plus méfiante sur la loi générale qui tendrait à donner une règle valable pour tout le monde, alors qu'on est appelé dans le monde à venir à revenir à du local.
Donc contre la mondialisation.
C'est même pas contre, en fait. Ça va être on hérite d'un monde qui est géré par des énergies bon marché. Ce ne sera plus le cas. Dans tous les cas, ce ne sera plus le cas. dans les années et les décennies à venir. Et dès l'instant où l'énergie ne sera plus aussi bon marché, on sera obligé de revenir au local parce qu'on ne pourra plus exporter et importer des denrées sur des centaines et des milliers de kilomètres. Donc cette relocalisation de la vie sociale amènera forcément, selon moi, un besoin de relocaliser aussi l'échelle politique et donc de réapprendre à se parler et décider ensemble avec des personnes qui n'ont pas les mêmes valeurs, qui n'ont pas les mêmes attentes, de comment on fait société ensemble. Et c'est un des grands enjeux, me semble-t-il, de l'avenir.
Comment faire société ensemble ? Eh bien, peut-être au départ de la gratuité, c'est une des pistes que vous proposez et qu'on va creuser dans quelques instants, juste après une petite pause musicale, Véronique Perriot.
Jouer le faux héros au milieu des flammes, repartir à zéro pour un supplément d'âme. Je pourrais te regarder dans les yeux, te dire que tout ira mieux. Je mettrai la musique plus fort pour plus entendre dehors. Allez, viens, je t'emmène. Jouer les beaux mots au milieu des femmes, le premier domino de ton cœur qui s'emballe. Je pourrais te regarder dans les yeux, te dire qu'avant c'était mieux, remettre la musique plus fort pour plus entendre nos remords. J'entendrai les bravos étouffer les flammes. J'éteindrai le chaos, tu seras ma femme. Et on se regardera dans les yeux, dire que demain sera mieux. Je chanterai toujours plus fort pour qu'on m'entende dehors. Allez, viens.
Vous Vous êtes toujours dans Plein Feu, une émission de Kettlebell sur RCF. Plein Feu aujourd'hui sur Véronique Perriot, écrivaine. Vous êtes française et vous avez publié Gratuité il y a quelques années déjà, mais vous nous disiez il y a quelques instants qu'une troisième édition est déjà en cours de préparation. Alors, peut-être un élément fondateur dont vous parlez dans l'ouvrage, on est en août 2015, votre voisine de palier part à ce moment-là en maison de retraite, et vous vous rendez compte que sur le palier s'accumule un amoncellement de choses. Ce sera le point de départ, ou en tout cas une étape importante dans cette réflexion, dans votre réflexion sur la gratuité précisément. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé ce jour-là ?
Tout à fait. Eh bien, en fait, ça a duré une quinzaine de jours. Sur mon palier, je voyais sortir des lits, des commodes, de la vaisselle, mais dans des quantités ahurissante, sachant que cette dame invalide vivait seule depuis des dizaines d'années. Et je connaissais son fils qui m'expliquait du coup qu'il passait 15 jours, tous ses congés d'été, à débarrasser la maison de l'appartement de sa mère qui partait en maison de retraite. Et puis à un moment donné, je vois deux autocuiseurs devant l'ascenseur prêts à être emportés. Et justement, je voulais m'en acheter un. Donc je lui demande, je lui dis, mais est-ce que je pourrais le prendre ? Il me dit, oh là là, oui, prends tout ce que tu veux, c'est ça de moins que j'aurais à amener à Emmaüs. Je rentre chez moi avec mon autocuiseur et en fait, dans la nuit, il y a vraiment une espèce de d'illumination, hein, je peux guère le dire autrement. Je me dis, mais en fait, c'est incroyable, je ne veux pas me retrouver dans cette situation, déjà de léguer à mes enfants tout ce que je n'ai pas su remettre en circulation. Donc je ne veux pas leur laisser mon bordel, clairement, derrière moi. Et puis, en fait, il y a tous ces biens qui ne servent à rien, qui sont là, cachés dans les placards, dans les greniers, faut les remettre en mouvement. Donc je me réveille le matin avec cette idée, je vais créer un espace de gratuité. Et je crois que ça a mis 15 jours à se mettre en place, ça a été extrêmement rapide. Dès le départ, je voyais comment ça pouvait s'organiser, donc de façon extrêmement simple. C'est-à-dire 2 heures de temps où les gens apportent tout ce qui ne leur sert plus comme ils veulent, à l'heure qu'ils veulent, et les gens reprennent gratuitement tout ce qui leur fait envie. C'est très simple. Et je l'ai appelé gratuité à ce moment-là parce que je ne voulais pas qu'il y ait d'échange monétaire pour des raisons pratiques. C'est-à-dire que je savais que dès l'instant où il y a de l'argent, il fallait faire des inscriptions, une déclaration préalable, des comptes à la fin. Donc ça allait compliquer la chose et moi je voulais que ce soit simple. Donc c'est vraiment l'argument purement pratique au départ. Et puis à l'usage, je me suis rendu compte que la gratuité, ce n'était pas que pratique. Certes, ça permet une très grande liberté d'initiative, ça permet de sortir du cadre du contrôle bureaucratique. Ça permet de ne pas se poser la question de savoir si jamais ça ne marche pas, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il faudra rembourser de l'argent. Non, chacun prend à ses risques et périls et donne à ses risques et périls avec la plus grande honnêteté possible quant à l'état de l'objet. Mais voilà, il y avait ça. Et en fait, à l'usage, je me suis rendu compte que ça créait de la convivialité, que ça créait du commun. Tout d'un coup, on donne dans un commun, donc on appartient à un commun. Donc le cercle de la famille s'élargit au-delà de la famille. Donc ça crée de l'entraide, du partage, de la concorde même, la capacité de s'accorder avec des gens qu'on ne connaît absolument pas. C'est très drôle en fait quand vous avez par exemple une robe qui est passée de personne en personne ou que des gens qui ne se connaissent pas la minute d'avant sont là en train de dire « Ah, ça vous va super bien, c'est tout à fait votre style ». Tout d'un coup, il y a un sentiment... On peut faire société ensemble sans se connaître à l'avance. Donc, dès l'instant où on se place à cet endroit-là, ça ouvre des perspectives tout à fait saisissantes. Et puis, on se rend compte aussi que la question de la valeur disparaît complètement derrière celle de l'usage, en fait. L'important, ce n'est pas la valeur de l'objet, c'est l'usage qu'on va en avoir ou pas. Et finalement, les gens prennent très, très peu de choses.
C'est ce que vous disiez hein, dans le livre... Vous indiquez qu'il y a finalement plus de gens qui souhaitent donner que de gens qui souhaitent recevoir.
Tout à fait. Parce qu'on est en fait dans une société de pléthore. C'est ce qu'on oublie. On a accumulé tellement de biens qu'on dispose de beaucoup plus de biens, en Occident en tout cas, qu'on ne peut utiliser. C'est outrancier même. Et dès l'instant où on se pose la question de l'usage, les gens ne regardent plus l'objet en se demandant s'ils vont pouvoir... si c'est une bonne affaire ou voir s'ils peuvent le revendre. Tout d'un coup, c'est est-ce que je vais en avoir l'usage ? Mais l'usage comprend tout. Est-ce que c'est intéressant de l'entreposer ou est-ce que je vais le ranger ? Il va falloir que je le dépoussière. Par rapport à quel usage ? Donc il y a tout ce calcul qui se fait et très souvent les gens reposent l'objet en se disant mais en fait j'ai déjà tout ce qu'il faut. Et ça c'est formidable. Ils sortent d'un espace de gratuité en se disant en fait j'ai tout ce qu'il me faut. Donc ils éprouvent pour la première fois, souvent, ce que la société de consommation ne nous permet jamais d'éprouver, un sentiment de satiété.
Donc là, c'est vraiment les limites hein, de cette société de consommation qui nous font croire qu'on manquerait voilà. de plein de choses, alors qu'en réalité, quand on est confronté à la gratuité, on se rend compte qu'on a sans doute déjà plus qu'assez.
Voilà, et que ce qui est essentiel, en fait, on l'a déjà. Et que ce qui est encore plus important, ça m'amuse parce que j'ai fait des ateliers après pour faire éprouver la différence, par exemple, entre charité, troc, prix libre et gratuité. Donc les gens transfèrent des objets en étant d'abord dans un principe de charité. On donne à l'autre ce qu'on pense que l'autre a besoin. Puis un principe de troc, on essaye d'échanger un objet contre un autre objet. Un prix libre, on essaye d'évaluer la valeur d'un objet. Et puis du coup, on est dans tout un calcul assez compliqué.
Mais c'est déjà pas mal tout ça, non ?
C'est pas mal, mais ça ne permet pas d'aller vers la gratuité. D'accord. Parce que la gratuité, la vraie gratuité au sens où je l'entends, mais à la suite d'Ivan Illich, hein, moi je m'inscris complètement dans sa pensée, c'est l'acte sans attente de contrepartie. Donc c'est l'alternative au système d'échange. On ne donne pas en attendant un contre-don ou un retour, sous quelque forme que ce soit. On donne parce qu'on a envie de donner et qu'on est content de donner et ça se suffit à soi-même. Et dès l'instant où on n'attend plus des choses des autres, il se passe des choses, il émerge des entraides, des rencontres, des créativités partagées qui sont tout à fait incroyables. Parce qu'on n'est plus dans notre intention sur le fait qu'il va falloir qu'on obtienne quelque chose. Le champ est complètement ouvert. Et dès l'instant où le champ est ouvert, des choses émergent.
Maintenant, prenons le point de vue de celui qui veut effectivement vider son grenier, qui vient avec toutes ces choses, dont il veut se débarrasser. Est-ce qu'il est vraiment dans une démarche tout à fait désintéressée ? Parce que peut-être qu'il souhaite absolument que d'autres prennent ce qu'il a pour récupérer sa place. Est-ce qu'on est vraiment dans la gratuité, là ?
Alors, moi, je dirais que oui, parce que de toute façon, il va pouvoir se débarrasser. C'est le principe d'un cercle de gratuité, c'est-à-dire que les gens donnent ce qui n'est pas repris. Moi, je le réoriente vers une recyclerie derrière.
C'est ça.
Ou le Secours Populaire, ou Emmaüs, etc. Selon l'endroit où on se trouve, en fait, c'est remis dans un circuit ensuite de la seconde main. Donc, ce qui est marrant, c'est que beaucoup de gens me le disent, ils donnent là, alors qu'ils ne donneraient pas dans une boîte à dons ou dans une recyclerie directement.
Parce que c'est trop impersonnel ?
Exactement. C'est-à-dire que là, ils donnent dans un cercle de gens et ils voient que ça fait plaisir. Et en fait, il y a cette recherche de non pas donner dans un espace anonyme, dont on ne sait pas ce qu'il en sera fait ensuite, mais de donner à un groupe de gens, de faire partie d'un commun humain. Et ça, c'est très puissant. De rétablir ces communs humains, c'est vraiment quelque chose dont on a perdu l'habitude. Autrefois, il y avait quand même beaucoup de systèmes d'entraide. On aidait le voisin à réparer un toit cassé, à construire sa maison, on travaillait ensemble dans les champs. Il y avait plein d'occasions d'œuvrer ensemble et de sentir qu'on faisait corps ensemble. Pour moi, elle est importante, cette notion de faire corps ensemble. Et dans un cercle de gratuité, en fait, on fait corps ensemble. Mmh. Moi, j'ai une image magnifique, il y a quelques mois de ça, dans un cercle de gratuité, dans une petite ville à côté de chez moi. C'était la deuxième séance, je crois. Et les gens ont donné des tonnes et des tonnes de vêtements. On avait sur 10 mètres de table, 2 mètres de hauteur de vêtements. C'était assez hallucinant. Et il y a le camion d'une recyclerie qui allait passer récupérer le restant à la fin. Et à un moment donné, des personnes qui venaient là pour la première fois, qui étaient en train de chercher des vêtements, ont commencé à plier, sentant que c'était l'heure. Une personne a commencé à faire ça, sa voisine a fait pareil, sa voisine a fait pareil, sa voisine a fait pareil. En 5 minutes, tout était rangé dans des cartons. Personne n'avait donné de consigne à personne. Mais l'attention au corps du voisin et le signe envoyé par l'un qui devient le signe que reçoit l'autre, on aurait organisé ça, on n'aurait jamais pu être aussi efficace. Donc des moments comme ça, ça donne vraiment c'est pas seulement une image, en fait, ça concrétise le fait qu'on est capable de s'organiser dès lors où, sans autorité extérieure, dès lors qu'on est attentif et qu'on est porté par une œuvre commune. Et que l'important, c'est d'identifier l'œuvre commune. Et qu'ensuite, si chacun se met à ce service, au service de cette œuvre commune, sans rien en attendre un retour, simplement porté par la joie qu'il y a, et il y a une vraie joie à œuvrer ensemble à une œuvre commune, alors les choses peuvent se faire. Et elles se font dans la joie et elles se font de façon extrêmement efficiente. Et là, on avait des enfants, des mamies qui ne parlaient pas un mot de français, toutes les catégories possibles de population, et ça œuvrait ensemble. C'est très, très beau à voir.
Une question qu'on peut se poser, c'est jusqu'où est-ce qu'un tel modèle est possible ? Jusqu'où faut-il aller ? Supprimer l'argent ? Est-ce que ce serait une de vos utopies, Véronique Perriot ?
Alors, jusqu'où, je pense que c'est la pratique qui le montrera. Moi, mon envie, c'est d'explorer, justement, d'ajouter un cercle et un cercle et un cercle jusqu'au point où ça rencontre sa limite. Et mon intuition, c'est que ça ne rencontre pas de limite. Mais tant que je ne l'aurai pas expérimenté, je ne le vérifierai pas. Supprimer l'argent, je pense que ça adviendra d'une façon ou d'une autre, parce que le système monétaire est un système virtuel dépendant de réseaux électroniques et que ces réseaux ne seront pas éternels. Donc, à mon avis, l'argent disparaîtra tôt ou tard, de toute façon. Par contre, je pense que si l'argent disparaît avant que la gratuité ne soit revenue dans nos états d'esprit, c'est pas forcément une panacée, parce que ce serait un troc entre des personnes qui possèdent des biens contre des personnes qui n'en possèdent pas, ou un pouvoir avec des personnes qui possèdent des armes sur des pouvoirs. Donc l'argent, c'est une forme, c'est une manifestation d'un système de domination, mais c'est pas en supprimant la forme qu'on supprime le système de domination. La vraie alternative, c'est de se penser comme faisant partie d'un tout commun, et de se rendre compte, et c'est ce que permettent de faire les cercles de gratuité, que si on arrive à faire circuler tous ces biens entre nous, c'est parce qu'on a besoin de toutes les personnes qui font partie de ce cercle. Et le cercle, il est ouvert réellement à tout le monde. Et qu'importe ce que chacun a donné, il y a des personnes qui donnent une bricole, il y a des personnes qui donnent des sacs et des sacs entiers, qu'importe.
C'est ça, parce qu'un des enjeux, c'est vraiment la question des inégalités aussi. Hein. Comment lutter contre les inégalités? Est-ce que la gratuité est une façon précisément de remettre chacun à niveau, en un sens? Oui.
Aussi bien les inégalités de ce qu'on peut contribuer, parce qu'on n'est pas tous en capacité de contribuer pareillement, et on ne contribue pas tous sur les mêmes plans. Il y a des gens qui vont contribuer en amenant beaucoup de choses, d'objets. Il y a des gens qui vont contribuer en amenant un petit gâteau. Il y a des gens qui vont contribuer en amenant un sourire, un état d'être. Il y a des gens qui vont contribuer en parlant à leurs voisins. Il y a 10 000 façons de contribuer. Et en fait, c'est d'arrêter de vouloir comparer. Et dès l'instant où on est dans le gratuit, on arrête de comparer. On n'est pas en train de comptabiliser ce que chacun fait. On est en train de voir que tous ensemble, on compose un tout, et que ce tout permet à chacun d'accéder à des usages sans coût pour lui, sans coût pour la planète, sans coût de transport. Donc c'est formidable. Un vêtement qui est porté 10 fois, c'est un vêtement qui ne sera pas fabriqué avec du coton OGM bardé de pesticides, puis cousu par un enfant en Chine, puis transporté dans des containers. Donc c'est formidable, ça économise tout ça. Et ça permet surtout de se rendre compte que ce qui est encore plus important que l'objet lui-même, c'est le cercle convivial qui a été ravivé à l'occasion de cet objet.
Il y a une autre notion aussi qui apparaît dans l'ouvrage, c'est celle de gratitude, hein, qui est intimement liée à l'idée de gratuité. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots?
Eh bien, en fait, dès l'instant où on achète un bien, on rentre dans la boucle de la dette. C'est-à-dire qu'on veut obtenir quelque chose de cet objet, et généralement on n'obtient pas tout ce qu'on veut, parce qu'au-delà de l'objet lui-même, on a des attentes symboliques, on a des attentes narcissiques, on a des comparaisons. Même si on achète une très belle voiture, ben, le voisin aura toujours une voiture plus belle ou plus brillante. Donc dès l'instant où on achète, on est momentanément satisfait, mais en fait il y aura toujours un désir qui prendra la suite de ce désir-là. La gratuité, c'est l'inverse, on n'attend rien. Donc, on est content, en fait, des cadeaux que la vie nous présente, parce que c'est inattendu et qu'on n'est pas en train de le comparer à quoi que ce soit d'autre. On épouse, je crois dans le livre, on adopte le présent. Et c'est ça, ça permet de dégénérer une gratitude pour tous les cadeaux que nous présente la vie. Moi, je veux des enfants, mais qui sont tellement ravis parce qu'ils ont trouvé une micro-peluche que personne n'aurait pensé à leur acheter, mais c'est le cadeau que leur fait la vie. Et ça change aussi complètement la perspective. C'est de se dire c'est extrapolable à l'infini. C'est-à-dire que la vie est un cadeau dont on ne sait pas les facettes qu'il va receler, mais dès l'instant où on l'accepte comme un cadeau, on découvre en fait ce qu'elle est en mesure de nous apporter sans rien en attendre. Et là, il n'y a que du bonheur à la clé. Hein.
Véronique Perriot, vous êtes déjà bien engagée sur ce chemin de la gratuité. Quels petits conseils, trucs, astuces, pratiques peut-être pourrions-nous donner à nos auditeurs qui sont sans doute davantage dans une logique de possession, d'achat? Est-ce qu'il y a des petits pas par lesquels on peut commencer?
euh... Alors, je dirais qu'un des pas, c'est d'expérimenter la gratuité, les cercles de gratuité. C'est très, très facile à mettre en place. Hein. Ça peut se faire à l'échelle d'un immeuble, d'un groupe de voisinage, d'une cote étudiante. Enfin, c'est très facile d'avoir un petit local dans lequel les gens déposent et reprennent avec un petit moment convivial. C'est de se poser la question. Moi, j'ai habité du coup à Hong Kong et il y a une tradition là-bas qui est le Nouvel An chinois. Au Nouvel An chinois, les gens arrêtent tout ce qu'ils font, alors qu'ils n'arrêtent jamais le reste du temps, pour faire le tri de ce qu'ils ont utilisé ou pas utilisé au cours de l'année écoulée. Et ils remettent en circulation, je crois qu'en l'occurrence là-bas ils jettent, mais c'était il y a longtemps, mais c'est au moins donné, tout ce qui n'a pas servi au cours de l'année écoulée. Et dès l'instant où on commence à faire du tri, à faire du vide, on se rend compte qu'il y a une sensation d'allègement qui est proprement jouissive. En fait, on a tellement pris l'habitude d'accumuler qu'on a oublié ce que c'est que la légèreté qu'amène le fait de s'alléger. Et cet espace qui se libère permet à de nouvelles choses d'arriver, qui ont en général beaucoup plus de saveur qu'un objet de plus qui prend la poussière. Donc voilà, découvrir le plaisir de s'alléger.
Kettlebell.
Vous êtes toujours dans plein feu aujourd'hui sur Véronique Perriot, l'autrice de Gratuité, on en a parlé il y a quelques instants. Véronique Perriot, est-ce que le chemin dont vous nous avez parlé, c'est aussi un chemin intérieur, spirituel? Est-ce que Dieu a un rôle à jouer là-dedans? Est-ce qu'il existe pour vous? Est-ce qu'il est quelque part?
Vaste question. Je suis en pleine réformation de ma cosmogonie intérieure. Donc, je crois que c'est un peu prématuré pour définir tout ça. Par contre, ce que je peux dire, c'est qu'il y a pour moi une dimension clairement spirituelle dans le fait d'être dans une attitude gratuite. Je fais un parallèle avec ce que je comprends en tout cas de la posture christique. De donner et se donner sans compter et sans attendre de retour. Et que quand on se place à cet endroit-là, on est sur un autre plan par rapport à un plan plus séculier qui est de l'échange marchand, d'attente de retour. En fait, ça a une complètement autre vibration. Et j'ai un ami, par exemple, qui donne des soins et qui a décidé de proposer ses soins en deux versions. La version marchande, 60 euros la séance, et la version gratuite. Juste parce que ça... En fait, on ne peut pas faire un intermédiaire entre les deux. Soit on est dans la dimension où on marchande, on comptabilise, on évalue par rapport aux autres, on attend un retour. Soit on est dans cette dimension gratuite qui nous fait directement passer sur un autre palier, un autre plan d'interaction avec autrui. Un plan qui est au-delà des postures, au-delà des positions sociales qu'on peut occuper, au-delà des statuts. Un plan où on peut se relier les uns à l'autre, chacun y mettra ce qu'il veut, par le cœur, par l'âme, par l'esprit, mais en tout cas sur un autre plan que le plan de des positions qu'on occupe dans la société.
De la gratuité, vous êtes passé à l'amitié, c'est le nom de votre dernier ouvrage. Pourquoi s'intéresser à ce sujet-là?
Alors, le livre s'appelle « L'amitié, une clé pour s'accorder ». Parce que j'ai vécu dans des collectifs où on avait tout un tas d'outils de gouvernance partagée, notamment, pour essayer de mieux s'accorder ensemble, de mieux s'écouter, c'est très utile. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait un plafond de verre, un endroit où ça se bloquait, où on invoquait régulièrement le PFH, le putain de facteur humain. Et à chaque fois, je me suis dit, non, ce n'est pas un problème d'humain, c'est un problème qu'on manque d'humanité à ce moment-là. Ce n'est pas notre trop d'humanité, c'est un défaut d'humanité parce qu'on n'y met pas du cœur, parce qu'on n'y met pas d'affect, parce qu'on ne traite pas l'autre en ami. On le traite en associé, en quelqu'un avec qui on traite d'une affaire. Enfin, il y a une forme de négociation, de partenaire, de projet collectif, mais on ne le traite pas en ami. On n'a pas à cœur que son bien puisse être aussi mon bien, enfin, de chercher ensemble un bien commun. Et du coup, j'ai commencé à me... En fait, le pilote de ce projet collectif, un jour, nous l'a dit, mais en fait, moi, je ne peux pas être votre ami parce que je suis votre propriétaire et vous êtes mes locataires, donc on ne peut pas être amis.
Ça, c'est une mauvaise réflexion, d'après vous?
En tout cas, ça m'a fait très clairement réagir et je me suis dit que si... On ne pouvait pas être amis quand on est propriétaire et locataire, ça veut dire qu'on ne peut pas être amis tout court. Enfin, qu'on ne peut pas faire une société fondée sur l'amitié. Et là, je me suis rendu compte à rebours que si on ne met pas l'amitié, enfin le fait de traiter l'autre en ami au cœur d'un projet de société, eh bien, on peut en arriver à instrumentaliser tout le monde. L'instrumentalisation étant le revers de la gratuité. Instrumentaliser tout le monde et traiter l'autre comme du bétail. Traiter l'autre comme un animal qui eux-mêmes ne se traitent pas comme ça d'ailleurs, mais de traiter l'autre d'une façon qui va générer une société profondément inamicale. Et ça, en fait, c'est terrifiant.
Alors que l'amitié, Véronique Perriot, c'est vouloir le bien de l'autre? C'est comme ça qu'on pourrait définir l'amitié?
Alors, pas tout à fait. Pour moi, enfin, dans mon livre en tout cas, je m'intéresse moins à l'amitié en tant que sentiment qu'on peut ressentir pour l'autre qu'en tant que posture, traiter l'autre en ami. Ce qui m'intéresse, c'est de voir comment et ça peut être très pratique dans certains des chapitres, de voir comment on traite l'autre en ami, c'est-à-dire qu'on respecte son droit, son espace pour jouer son pion intérieur. J'utilise beaucoup cette métaphore-là, c'est-à-dire que pour moi, on a une responsabilité à prendre la responsabilité de son pion, de comment on agit dans la vie, comment nos actes ont des impacts sur les autres, vivants, humains ou non humains, et comment l'autre a sa propre liberté d'être. C'est la différence que je fais avec l'amour, où l'amour, on a tendance à vouloir fusionner avec l'autre, partager des choses, partager les mêmes valeurs, se superposer d'une certaine façon. Et il y a un côté fusionnel. L'amitié est dans la tradition classique une forme de l'amour, mais qui est plus avancée vers l'agapé, donc c'est là où on rejoint une notion un peu christique, plus avancée dans le sens où elle laisse à l'autre l'espace de sa singularité. C'est l'autre en tant qu'autre, pas l'autre en tant que double de moi-même, mais vraiment l'autre en tant qu'autre. Et donc c'est comment on compose un monde avec l'autre, qu'on traite en ami, c'est-à-dire qu'on peut lui demander un service, on peut lui demander un conseil, mais on ne va pas, par exemple, le laisser pour mort. On ne va pas lui vider son frigo et ensuite tout dévorer chez lui et le laisser pour mort. Et dès l'instant où on se pose cette question de traiter l'autre en ami, moi je trouve que c'est assez opérationnel, en fait, par exemple, dans le rapport à l'animal. Est-ce qu'on traite l'animal en ami? Est-ce qu'on traite un enfant en ami? Est-ce qu'on traite la personne qui travaille pour nous en ami? Est-ce qu'on traite un collègue en ami? Et dès l'instant où on se pose cette question, c'est vertigineux. Parce que si on ne traite pas l'autre en ami, ça veut dire que potentiellement, on va en faire un ennemi. Donc on sème la haine, on sème la discorde, on sème le conflit, on sème on sème la guerre à tous les étages. Donc ma préoccupation par rapport à l'amitié, ça a beaucoup été ça, en fait. Pour moi, ça me paraît l'alternative à un rapport de pouvoir, d'autorité, de pouvoir sur autrui, et donc de conflit généralisé. Je trouve qu'il y a un virage là dans nos sociétés très, très guerrier ces derniers temps, et que c'est, me semble-t-il, le contre-feu. Autant la gratuité est le contre-feu d'une société de consommation où on finit par se dévorer mutuellement, autant l'amitié est le contre-feu d'une société où on désigne des ennemis à tous les étages et on part en guerre contre tout le monde. On en arrive à partir en guerre contre tout le monde.
C'est pas donc tellement une question de sentiment, hein, l'amitié. Forcément, il y a certaines personnes avec qui on s'entend mieux que d'autres. L'enjeu n'est pas là.
L'enjeu n'est pas là, justement pas là. C'est de faire sortir l'amitié d'un ressort strictement personnel, ce que la tradition philosophique l'a cantonné pendant très longtemps. Et tout récemment, il y a eu Ivan Illich, Jacques Derrida et le pape François qui a fait des très, très beaux éloges de l'amitié en utilisant la parabole du bon samaritain. Qui me semble constitutive aussi d'une certaine tradition chrétienne, à savoir de traiter le prochain en ami, tout prochain. Et c'est vraiment tout prochain, c'est quelqu'un qui est d'une autre religion, d'une autre race, d'une autre espèce, c'est un animal, un végétal, la terre dans son intégralité. C'est traiter le prochain en ami et reprendre conscience, et c'est là où ça rejoint la perspective de gratuité, qu'on fait partie d'un tout commun. Alors, j'aime bien écrire commun, comme, hein, mais c'est vraiment cette notion-là qui m'anime, je crois, un tout commun. C'est-à-dire qu'on est tous différents, on ne va pas devenir la même personne, être une personne unique. Ça a été un rêve, je pense, un fantasme pendant des centaines d'années, voire des millénaires. Non, on est vers une différenciation du vivant, des personnes, mais par contre, on peut composer ensemble un monde. J'aime beaucoup cette phrase, le titre du livre de Gaël Giraud, composer un monde en commun, c'est vraiment ça. Et pour moi, l'amitié et la gratuité sont des outils, deux outils de pensée essentiels pour pouvoir composer un monde en commun.
Vous citiez le pape François, il parle aussi beaucoup de fraternité, hein, il a consacré une encyclique à cette question, Fratelli Tutti. C'est une notion qui vous parle, qui peut être assez similaire à celle de l'amitié, ou c'est encore un peu différent?
Alors, pour moi, la fraternité, le mot le dit bien, c'est être frère. Donc déjà, c'est être frère, c'est pas forcément être sœur. Il y a une dimension quand même réservée à un genre. Et surtout, ça ramène à la notion de famille. Or, on ne fait pas tous partie de la même famille. La famille, ce qu'on partage en commun, c'est des règles communes, c'est une éthique commune, c'est un ethnos. Donc, et en fait, si on se différencie de la famille, on est généralement exclu de la famille. L'amitié, on le voit très bien, par exemple, le raciste ordinaire, il ne va pas aimer les blacks, les beurs. mais par contre, il peut avoir un ami black ou beurre, parce que c'est au-delà. L'amitié est au-delà des relations de communauté, de fraternité. C'est ce qui les dépasse tous, en fait. Et c'est pour ça que ça me paraît un outil de pensée phénoménal, parce que ça permet d'intégrer dans un tout commun absolument tout le monde, y compris la planète, y compris notre relation à notre milieu. Et on a besoin de trouver quelque chose aujourd'hui qui nous permette non pas de penser en termes de ressources, de bilan, d'empreinte carbone, mais de revenir à quelque chose qui est opératoire à tout instant. C'est-à-dire, est-ce que je traite cet arbre, cet animal, cette personne en ami ? C'est très facile comme question à se poser. Et en fait, intimement, on a la réponse.
Véronique Perriot, vous avez dit tout à l'heure, vous avez aussi été conseillère communale. Vous me disiez tout à l'heure que finalement, aujourd'hui, vous pensez plus que le monde va changer depuis la base et non pas depuis les décideurs. Et en même temps, dans quelques mois, il y aura les élections européennes, par exemple. Et parallèlement, certaines personnes qui essaient de changer le monde à leur petit niveau se sentent des toutes petites, minuscules gouttes d'eau dans l'océan. Quelle est cette articulation entre le micro, le local et puis les enjeux mondiaux qui nous dépassent et par rapport auxquels on se sent impuissant ?
Alors, je pense qu'aujourd'hui, si on peut, c'est bien d'agir à tous les niveaux. Aussi bien au niveau local, pour recréer des tissus d'entraide, d'amitié, de transfert de compétences, de partage de savoir. Enfin, on ne pourra pas faire l'économie du local. Mais on a besoin aussi, je ne crois plus beaucoup en la capacité de changer les choses par en haut, parce que je pense que les milieux politiques ont été trop infiltrés par les enjeux financiers, les multinationales. Pour avoir été attachée parlementaire, j'ai pu l'observer en première main. Donc je ne crois plus à la possibilité de la loi, par exemple, de changer significativement les choses. Par contre, il est clair que si sont élues des personnes qui sont sensibles au moins, à minima, à la préservation du vivant, c'est essentiel. Parce qu'on a quand même le choix entre des personnes qui vont accélérer la destruction, enfin je pense à un Bolsonaro au Brésil, ça a été une catastrophe. Si on peut mettre en place des gens qui auront au moins la mérite des garde-fous, même s'ils n'auront peut-être pas la possibilité de faire des textes structurants pour changer les choses, ils pourront au moins servir de garde-fous et c'est déjà pas mal. Donc voilà, je pense qu'il faut agir sur tous les plans à la fois. Et pas opposé, justement. Moi, le projet sur lequel je travaille aujourd'hui, par exemple, c'est un projet de tiers-lieu ressources dans la commune où j'habite. L'idée, c'est de mettre dans un même espace une réserve de graines, des outils, une réserve alimentaire pour assurer la sécurité alimentaire de la population, des ateliers autogérés de construction, de couture, d'entretien informatique, une cantine populaire, un café associatif, etc. Enfin, un jardin partagé, un verger partagé, une forêt cultivée, pour se réapproprier tout un tas de savoirs sous un modèle gratuit. Et ça ne peut se faire qu'avec une coopération élu-citoyen. Mais je vois que c'est difficile pour les élus d'avoir confiance dans les citoyens, c'est difficile pour les citoyens d'avoir confiance dans les élus, et il y a un énorme travail à faire de réapprendre chacun à sa place, de voir ce qu'on peut mutuellement s'apporter. C'est beaucoup plus facile aujourd'hui pour des citoyens de monter des projets que pour des communes, parce qu'ils n'en ont pas le temps et les moyens. Mais par contre, ils ont le foncier. Donc, pour moi, une forme d'avenir, ce sera que les communes mettent à disposition des citoyens du foncier qui leur permettra d'innover, d'inventer, de s'organiser indépendamment du droit administratif propre aux communes qui les empêche de faire quoi que ce soit dans les délais dont on aurait besoin, en fait.
Il y a une notion qu'on n'a peut-être pas encore évoquée dans cette émission, c'est celle de peur. Si les gens accumulent autant, si les gens voient peut-être les autres comme des adversaires et non pas comme des amis, c'est parce qu'on a peur de l'autre, peur de perdre, peur de l'avenir, hein, et vous avez évoqué quand même l'importance des enjeux planétaires qui nous attendent. La peur, comment est-ce qu'on peut lutter contre elle ? Est-ce qu'il faut lutter contre elle ou l'accueillir, la recevoir ? Vous-même, est-ce que vous avez peur ou est-ce que vous êtes plutôt habité par l'espoir, l'espérance ? Est-ce que c'est des notions qui vous parlent ?
Plutôt la confiance. Je crois que face à la peur, on est tous traversés de peur. Moi, pas plus que ça, je dirais, parce que je pense que c'est un poison. Je sens que c'est un poison. Donc, je lui offre tout de suite l'antidote qui est la confiance. La confiance en l'autre, et c'est une confiance de principe. J'en parle dans mon livre, il y a un chapitre sur l'amitié, il y a un chapitre qui s'appelle « trust », parce que c'est un mot qui n'existe pas en français, qui n'est pas la confiance, mais qui est la confiance qui confine à la foi. C'est-à-dire une confiance de principe en l'autre, une confiance de principe dans la vie, une confiance de principe dans l'intelligence collective. Et en fait, si on a une confiance de principe dans le fait qu'un enfant est bon et qu'il va chercher à se développer de la meilleure façon possible. Donc dès l'instant où on se place dans cette confiance de principe et qu'on ne la remet pas en cause, contrairement à la confiance, confidence, en anglais il y a la distinction, parce que la confiance que l'on a, nous, en français, elle est toujours remise en question, en fait. Elle est confiance jusqu'à un certain point, et puis ensuite, il y a rupture de la confiance, et puis c'est la guerre. Non, c'est vraiment une confiance qui n'est jamais remise en cause dans son principe. Et après, il y a des comportements qui peuvent être observés, discutés, amendés, bonifiés. Et ça, on peut s'atteler au comportement. Mais par contre, ne jamais remettre en cause cette confiance de principe dans l'autre. Et dans le fait qu'on n'est rien sans lui. Satish Kumar a un livre qui s'appelle « Tu es, donc je suis », que j'aime beaucoup, juste le titre. On ne peut peut-être pas être sans l'autre. L'humain est d'abord un être de relation. Il n'est pas un être de possession, il est un être de relation et on grandit dans la relation. Donc voir toujours l'autre comme une incroyable source de richesse, de possibilité de grandir grâce à lui, je pense que dès l'instant où on se place à cet endroit-là, j'insiste sur le fait de se placer, parce que c'est ce dont je parle beaucoup dans l'amitié. C'est-à-dire qu'on peut se placer à l'endroit de la peur, on peut se placer à l'endroit de la confiance. Notre vraie liberté intérieure, elle est à cet endroit-là, choisir l'endroit où on se place. Mmh. C'est pareil, on peut traiter l'autre en ennemi ou on peut traiter l'autre en ami. On a toujours, toujours, même dans les situations les plus conflictuelles qui soient, et j'en ai eu l'expérience, la possibilité de se déplacer à l'endroit de l'amitié, de se déplacer à l'endroit de la confiance.
Mmh. Dernière question, on arrive au terme de cette émission. Hein. Vous avez évoqué vos 4 filles et vous avez dit aussi le fait d'être mère, c'est un élément qui est significatif dans votre parcours. Quel est le monde que vous laisserez à ces filles? Quel est le monde dans lequel elles-mêmes vivront?
Je ne sais pas, parce que je pense que ce monde dépendra beaucoup de ce que nous en ferons, des choix que chacun fera individuellement. En tout cas, j'espère qu'elles pourront vivre dans un monde où on prendra beaucoup plus soin de la vie, dans toutes ses formes. C'est-à-dire qu'on sera moins préoccupé de transformer la vie autour de soi que de prendre soin de la vie qui est là, déjà là. Voilà.
Véronique Perriot, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci à vous.
Et chers auditeurs, naturellement, vous pourrez retrouver cet entretien en podcast sur katobel.be, un entretien qui sera aussi diffusé dans le journal Dimanche. À très bientôt.
Merci.
Plein feu, une émission de Katobel.